À voix nue, Caroline Brouet,
Carmen Castillo, chilienne et française, cinéaste, toujours en apprentissage, et quelquefois, j'écris.
Épisode 3, un jour d'octobre à Santiago. Un jour d'octobre à Santiago, Carmen Castillo, c'est le titre d'un livre que vous avez écrit en 1979, qui a paru en France en 1980, et qui raconte ce qui vous est arrivé. Et donc on va tenter de raconter avec vous, enfin c'est vous qui allez nous raconter ce qui s'est produit ce jour-là, mais pour comprendre ce qui s'est produit ce jour-là, évidemment on doit remonter un peu en arrière. Dans l'épisode 2 de Nos Avoix Nues, vous évoquiez un nom qui revient souvent, celui de Miguel Henriquez.
Oui.
Miguel Henriquez était le secrétaire général du MIR, l'organisation dans laquelle vous militiez, cette organisation de la gauche révolutionnaire. Et des choses arrivant comme ça dans la vie, vous êtes tombée amoureuse de Miguel Henriquez. Vous vous êtes installée avec lui. Racontez-nous.
C'est des années où l'amour et la révolution se vivaient ensemble. Donc c'est des années où les passions, où les vécus, où la liberté se vivaient au Chili. Et on évoquait un petit peu l'état de grâce, non, de ces années, ces 1000 jours d'Allende. C'est aussi l'état d'une société, un moment du Chili. Et voilà, je tombe amoureuse. Une nuit, je le vois en tout cas, une nuit où on danse. Et je me dis, c'est l'homme de ma vie. Après, nous allons vivre beaucoup de choses difficiles, des obstacles, des moments dans toute histoire d'amour personnel, privé, mêlé à la grande histoire, comme on dit. Mais nous avions les femmes à l'époque, on parlait pas de féminisme ni autre, mais nous étions une génération très autonome, des professionnels, on avait des vies intenses, moi j'avais des amies femmes qui ont été mon soutien tout au long de ma vie, mes complices, mes confidentes. Et donc, on a mené une histoire d'amour clandestine. Elle n'était pas connue par personne. À peine ma famille et assez tard l'a su. Et ça me donnait une liberté totale. Je n'étais pas la compagne d'un dirigeant politique. J'étais Carmen Castillo, prof, etc., etc. Bien sûr que Allende savait, bien sûr que Béatrice savait. Mais même, je dis, mon père l'a su tard. Donc, ça m'a permis de ne pas être écrasée par aucun rôle. Et l'apprentissage que je faisais de l'amour et de la vie et de la maternité dans ces moments-là était inscrite dans un mouvement, une société entière en état amoureux avec une solidarité extraordinaire. On n'aurait pas pu vivre cette histoire d'amour s'il n'y avait pas eu ma famille, la famille de la grand-mère de notre amie Humberto Sotomayor et Marie-Lou, s'il n'y avait pas eu ma petite sœur, s'il n'y avait pas eu tout ça qui permettait que nos filles vivent une vie normale à l'école et que nous, on dormait pas.
Parce que lui était père d'une petite fille qui avait à peu près le même âge que Camila, votre fille.
Voilà, Javiera. Donc, cette histoire n'a été connue qu'au moment de la mort, du combat. Et même si elle s'est su un peu plus, mais que la Dina...
La Dina, c'est la police politique.
Ouais, ouais. Donc, j'écris dans un jour d'octobre tout ce qu'on peut attendre le long d'une vie, je l'ai vécu là. Cela, c'est une petite maison dans le quartier San Miguel, où nous avons vécu clandestin face à la dictature.
Après, bien sûr, le coup d'État du 11 septembre 1973,
oui.
Quand le MIR entre à nouveau en clandestinité.
Oui.
Déjà, hein.
Oui. En juin 73, il y a eu El Tacnazo, qui était un coup d'État foiré. Et en septembre, le coup d'État
de Pinochet.
Victorieux, Pinochet. En juin, nous, on décide déjà de s'installer avec des faux papiers pour tout le monde, pour les filles, pour nous. On vivait dans une maison verte, dans ce même quartier, et avec les enfants à l'école et tout, mais bon, avec des faux papiers. Donc, le 11 septembre, on est déjà protégés. Et
prêt.
On peut tenir.
Enfin, préparé, en tout cas.
Préparé, on peut tenir. Déjà, dans la dispute, l'affrontement des politiques, la tension était énorme. À tel point que Allende va dire à ses partis, à Miguel aussi, et malheureusement aussi à Pinochet, que le 11 septembre, il appelle à un référendum pour que le pays décide s'il continue ou pas comme président. C'est pour ça qu'ils ont fait le coup d'État le 11 septembre. C'était pas la date prévue, mais ils se sont dévancés. Donc, notre histoire d'amour et notre engagement politique était tellement du côté de la vie que j'ai pas hésité un instant à me dire je vais continuer avec les filles à vivre ici.
Et ici, c'était donc dans cette petite maison bleue cachée, rue Santa Fe.
Voilà.
Au 725, où vous étiez avec les deux fillettes, Miguel Enriquez et vous.
Et un couple d'amis, Dumir, Marilou et Tito, au départ. Et nous menions une vie ordinaire.
Mais bien, cachée.
Avec des faux papiers, des fausses légendes, mais dans des rapports très normaux avec les voisins et avec le petit commerçant du coin, et avec etc. Moi, je sortais, Miguel très peu. On l'avait présenté la légende comme quoi il était malade. Donc,
la répression était déjà féroce à ce moment-là, puisque après 73, d'ailleurs, les dirigeants du MIR, donc Miguel Enriquez en premier, étaient parmi les premiers à être persécutés, poursuivis, emprisonnés, torturés, tués.
La répression.
Donc recherchés.
Ah oui, dans les 10 personnes les plus recherchées du pays, il y avait entre autres 3 dirigeants du MIR, Miguel, Andrés et d'autres. Et d'autres dirigeants politiques, Altamirano, toutes les photos partout. La répression a été brutale. C'est la brutalité massive le 11 septembre. Et ensuite, ils ont commencé à créer des gestapos chiliennes. Et c'est la DINA. Et ensuite, donc nous sommes par exemple fin octobre, novembre, ils vont définir une liste des priorités à écraser, à tuer. Et le MIR est en première position. Parce que le MIR a déclaré « non se asila », « el MIR non se asila ».
Ce qui veut dire ?
Qu'on ne part pas en exil. Et c'était pas un mot d'ordre irresponsable, volontariste. C'est parce que nous étions très connus et on faisait du travail politique et pas tout le peuple pouvait se réfugier dans une ambassade. Donc, on devait rester. On pensait pouvoir tenir. Personne cherchait la mort. Mais on avait honte, quoi, de dire, bon, on part tous. On peut pas. Pas tous peuvent partir. Donc, bien sûr, ce qui risquait énormément, on a essayé qu'ils puissent se réfugier. Ça a été très précaire, la clandestinité des militants, parce que, comme je disais, on avait tous agi avec nos noms, même si on avait tous des faux papiers, etc. La peur augmentait, et la répression centrée de la DINA sur nous, sur nos militantes et nos militants, a fait que, voilà, le 5 octobre 1974 à 13h de l'après-midi, ils attaquent la maison. Et là, nous allons résister. Et Miguel va combattre pendant plus d'une heure et demie seul. Et moi, je vais être blessée 15 minutes après le début du combat. Donc, c'est pour ça que je connais les heures à peu près de ce qui s'est passé.
Et que vous avez pu les reconstituer après, avec des témoins et avec des gens qui ont raconté ce qu'ils avaient vu.
Et dans
c'est
le procès.
C'est une grenade hein, qui a explosé,
ouais.
Qui vous a blessée. Vous étiez enceinte.
Oui.
Et vous êtes très très gravement blessée au bras, vous perdez beaucoup de sang.
Oui, par une artère. Et tout cela, comme il n'y a pas d'archives au Chili, quand je faisais Rue Santa Fe, je ne trouvais même pas où j'écris. Un jour d'octobre, je ne savais rien, parce qu'un jour d'octobre est écrit entre 77, où j'étais vendeuse chez Agnès Bell, m'avait offert des petits cahiers chinois et j'écrivais à la plume. Comme ça, des torrents de mémoire. Je l'ai écrit en français pour raconter que nous n'étions pas des héros, ni des héroïnes, que nous étions des gens normaux. Et je voulais le raconter à mes amis en France. Je ne savais pas tout ce que j'ai appris plus tard, lors du procès pour la mort de Miguel Enrique. J'ai exigé à la justice des preuves, des reconstitutions, de savoir qui avait lancé la grenade, à quelle heure ils étaient arrivés, qu'est-ce que disait l'autopsie de la mort de Miguel, définir le combat pour l'histoire. Puisqu'il n'y a pas d'archives, au moins que la justice puisse nous donner, nous créer des archives. Et voilà que je n'avais pas cherché qui m'avait sauvé la vie. J'ai pensé que c'était ma voisine, Gladys, qui m'aimait beaucoup. Et...
Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui a appelé une ambulance, qui vous a monté dans l'ambulance, parce que les soldats vous ont traîné en dehors de la maison, par les cheveux, vous ont tiré, vous ont frappé au visage et vous ont laissé comme morte, en fait, sur le trottoir. Et c'est là que quelqu'un...
Ouais.
Que vous avez retrouvé dans... On le voit dans Rue Santa Fe.
Je vais le filmer en direct en 2002. Et je vais apprendre qui m'a sauvé la vie. Je me dis, mais c'est fou que je n'ai pas cherché avant. Ce voisin, Manuel Diaz, est le véritable héros de la résistance. Parce que il était mon voisin, un humble ouvrier, d'une dignité, d'une beauté, il était handicapé aussi. Et il a dit, je pouvais pas vous laisser par terre, vous étiez ma voisine et vous étiez dans une mare de sang. Alors il y avait une ambulance qui était arrêtée, pas en service, avec un chauffeur. Et il dit, il faut traverser les balles là, il faut la prendre. Et dans la confusion, je pense que Miguel est tué à ce moment précisément dans la maison voisine. Il dit, il y a une femme, il crie, il y a une femme enceinte, blessée, arrêtez le feu. C'est ce que raconte la voisine de l'autre maison où il est tombé et on lui a tiré et il est mort. Bon, donc me voilà, moi, emporté par ce geste de bien et qui arrive... Cette ambulance arrive à l'hôpital civil, moi, eux deux et quelques agents de la DINA. Et là, encore, les gestes de bien. Le médecin d'urgence, jeune, qui me dit qui tu es. Je vais te mettre tu es en train de, il faut que je te fasse une transfusion de sang. Et la vieille infirmière, j'oublierai jamais son visage avec son petit truc. Avec sa peau un peu frisée, qui me dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Je dis « Appelez à tel numéro mon oncle, Jaime Castillo, dites-lui que je suis vivante. » Et le message est arrivé. Et c'est comme ça que tout de suite, il y a eu une campagne internationale énorme. Donc...
Régis Debray, Simone Signoret, Angela Davis...
Oh oui, énorme.
Énormément de personnes
de tout,
se sont mobilisées.
Oui, même Françoise Giroud, donc Simone et Régis ont initié mondialement cette campagne. Et Et au Chili aussi.
Parce que la DINA continuait de vous persécuter, d'ailleurs jusque dans l'hôpital. Hein. Cherchait quand même à vous tuer, en fait, tout simplement. Donc, ils vous menaçaient,
Oui, ils ont voulu dire que j'étais morte et ensuite ils m'ont emportée à l'hôpital militaire où j'ai encore eu un geste bien du chirurgien qui m'a opérée, qui n'était pas un militaire, qui était par hasard là dans l'hôpital militaire. Bon, ça a été un moment de où j'étais entre leurs mains complètement avec la visite quotidienne interrogatoire dans ces conditions. Mais je n'ai pas été torturée. Comme au même moment étaient torturées les militantes, mes amies, dans la maison de torture de José Domingo Cañas ou plus tard Villa Grimaldi. Et j'ai été sauvée par ces personnes. Mais en 2002, quand je rencontre Manuel, c'est pour cela, Caroline, que je fais Rue Santa Fe. Parce que jusqu'à ce moment-là, j'étais obsédée par le mal. J'ai fait, avec Guy Girard, ce film La Flaque Alejandra. J'ai écrit sur cette maison de torture en 78-79, dans le livre Un jour d'octobre. J'ai tout lu, tout lu. Tout ce qu'avait écrit, tout ce qui pouvait me raconter, les livres de Anthelme, Primo Levi et les récits de la Colima, tout ce qui pouvait me parler de ces témoignages, de ce qui se passait là-dedans. Donc, quand est-ce que j'ai pu approcher l'engagement politique de ma génération d'une manière sincère et en même temps pleine de force et de lumière, c'est quand je me suis dit que comme dans Les Misérables, Victor Hugo, les gestes de bien sont violents et engagent. Ce geste de Manuel m'engageait, m'obligeait à aller questionner notre engagement politique.
Les fillettes étaient à l'ambassade d'Italie ce jour-là, donc elles n'étaient pas dans la maison. Vous étiez tous les deux avec Miguel. Et vous êtes donc une miraculée, Carmen Castillo, une miraculée qui a été expulsée du Chili après cette campagne internationale, mais qui a été expulsée du Chili. Et vous avez rejoint l'Angleterre, Cambridge, où vos parents étaient. C'est là que naît votre bébé, Miguel Angel.
Oui. L'accouchement de Miguel Angel était une merveille. Il est né. Il était beau, il avait des grands yeux. On a fait la fête. Il vivait. Le fils de Miguel vivait. Mais au troisième jour, il prend pas le sang. Et donc, je vais parler avec la chef de pédiatrie de la maternité de Cambridge. Et je vais apprendre, avec des mots très précis, que l'enfant est atteint, comme elle dit. Et probablement, et l'autopsie va le dire plus tard, parce que j'ai perdu beaucoup trop de sang au moment des blessures, quoi, avant ce jour du 5 octobre. Donc, le crime de cette dictature civile et militaire, n'est pas seulement la mort au combat de Miguel, c'est la mort de son enfant. Et ça, je ne l'ai pas vu ni dit jusqu'à il y a 3 ans. C'est seulement il y a, en 2019, quelques jours avant la révolte populaire, le soulèvement, où sont apparus dans les murs des anges, des petits anges, que pour des raisons dont le dialogue avec ma fille Camilla, l'enfant est réapparu. J'ai écrit sur lui, mais une brève page. Et puis je suis partie, j'ai pris la fuite. Et cette fuite...
À l'époque, vous voulez dire?
Oui, au moment où... Où j'apprends qu'il va mourir. Alors, on va pas s'attarder trop sur tous ces moments de sidération, de flottement que la survie contient. Ce moment où voilà quoi.
Il y a un moment dans Rue Santa Fe, dans votre film, Carmen Castillo, où vous racontez que vous êtes partie à Cuba, en effet, dans les années, juste après, hein, 75, 76, mais que non, vous avez voulu rentrer, donc vous êtes rentrée à Paris avec Camilla, mais que vous aviez du mal à ce moment-là, vous viviez un dilemme, en fait, entre... vous, comme mère, devant vous occuper de cette petite fille, et vous, comme militante, vous n'arriviez plus à vous occuper de votre fille, et vous aviez sans arrêt la tête au Chili, dans ce qui se passait, dans la vie de vos anciens camarades. Voilà, vous racontez ça, et c'est, ce dilemme-là finit par le fait que Camilla repart seule, à Cuba, vivre avec son père. Et vous ne l'avez pas vu de ses 6 ans à ses 17 ans. C'est ça que vous racontez à ce moment-là.
Oui, j'allais la voir à La Havane. Et je travaillais pour les faire venir, les trois filles, les rassembler. Camila, sa demi-sœur, et Javiera, les étés, merveilleux étés avec mes amis. Ces lieux de vie où j'ai été accueillie en France et à Paris. Donc, en vous écoutant, je me dis que j'ai compris il y a très peu de temps que ce crime, ce double crime, a peut-être été un triple crime. Est-ce que peut-être ce qu'ils ont tué aussi, au plus intime, c'est la mère, peut-être. Peut-être que je pouvais pas. Parce que, il n'y a pas une excuse politique. Je pense que le personnage de la veuve en mission, elle m'aurait tué si je l'avais pas détruit grâce à l'aide de Béatrice Allende, encore une fois, à La Havane. Donc, de cet état de sidération, de flottement, de irréalité dans lequel on est. Bien sûr, il y a les actes, non, de solidarité, mais dans le film, il y a ce flottement. On voit bien les deux visages de cette femme que j'ai été. Je ne suis plus celle que j'ai été. Et voilà. Béatrice, elle, se suicide dans un acte volontaire.
En 1977.
En octobre. Et ce chemin est fermé pour moi, parce que je comprends que c'est un acte politique dû à l'absence du politique. Je suis à Paris, chez rue du Jour, chez Agnès, et j'apprends la nouvelle du suicide de Béatrice Allende. Et je vois immédiatement tout ce qu'elle m'avait appris, tout ce qu'elle m'avait dit. je vois que cette mort volontaire, c'est un acte de dénonciation de l'exil, de l'absence de politique, de l'impossibilité d'être femme et militante à la fois. C'est ça. Donc, tout mon combat à partir de là va être dans l'écriture, dans la vie, de passer de la survie à l'existence, de rendre réellement vivant ce qui a été notre engagement, qui n'avait rien à voir avec le sacrifice, rien à voir avec la mort. La mort est venue de l'autre, de la bourgeoisie, des militaires, de la haine à l'égalité, pas de nous. Donc, voilà, j'ai choisi Paris. Et on peut plus le faire aujourd'hui, de choisir le lieu où on peut passer de la survie à l'existence, où on peut renaître, où on peut aimer, où on peut vivre. Et j'ai choisi Paris.
Et c'est là que vous vous êtes mis à écrire ce livre, Un jour d'octobre à Santiago, qui a paru en 1980 et qui a été réédité par les éditions Verdier avec Ligne de fuite qui a suivi ensuite, qui est le premier retour en 1987, qui a été réédité par les éditions Verdier. Qu'est-ce qu'il a changé, ce livre ?
Le moment de l'écriture était des carnets, des cahiers. Ensuite, j'ai pu m'offrir ce privilège d'être 9 mois, curieusement, hors de tout et de donner forme à partir de tous ces cahiers à un livre. Donc, l'acte de le publier a été très réfléchi. Et aujourd'hui, je me dis que effectivement, ça se faisait pas à l'époque de dire « je ». À l'époque, les militants, c'était le « nous ». Et que là, ma seule légitimité, c'était de dire « je » parce que je touchais à l'histoire collective et aux mémoires des autres. Donc, voilà, c'est un dialogue entre ce « je » et celle qui n'est plus, qui est morte avec Miguel le 5 octobre à Santiago.
Mais c'est aussi, Carmen Castillo, un dialogue que vous commencez d'entamer avec ce livre, avec le « nous », avec l'histoire collective, parce que les livres qui suivent, les films qui suivent, ça n'est pas seulement vous, ça n'est pas seulement un « je », c'est vraiment un « nous ». Et c'est ce qu'on verra dans l'épisode qui suit, l'épisode 4, « La mémoire et l'exil », à travers les livres et les films que vous avez faits. Merci.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Frédéric Kérou, réalisation Anne Pérez-Franchini, une série de Caroline Brouet à retrouver et à podcaster sur le site France Culture et l'application Radio France.